Nous sommes au centre Georges de Vereux. Merci beaucoup, Toby Nathan, de m'accueillir. Nous allons parler de l'Évangile selon Youri, votre nouveau roman aux éditions Stock en cette rentrée littéraire de septembre 2018. Toby Nathan, ma première question va être très très simple. Le personnage principal de ce roman, le fil conducteur, c'est Ellie. Qui est Ellie?
Alors, Ellie, c'est un psy. C'est un psy spécialisé en ethnopsie. Donc, c'est aussi ma spécialité. Donc, évidemment, j'étais bien placé pour le décrire, puisque nous avons la même spécialité, lui et moi. Il est spécialisé en ethnopsie. Il travaille dans un centre en plein Paris qui est lui aussi spécialisé en ethnopsie. Mais il est vieux. Il est vieux. Il est à la retraite et on l'a un peu mis au rancard. Son équipe, l'équipe dans laquelle il travaillait, l'a un peu laissé sur la touche. Il continue à venir au centre parce que c'est lui qui l'a fondé il y a longtemps. Mais sans conviction, et les gens l'accueillent par politesse, mais pas davantage. Et c'est là, dans ce centre, qu'il va faire une rencontre qui va révolutionner, comme il dit, sa vie. Et sa vie actuelle et sa vie pour l'éternité, en fait. Voilà ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Moi, je rapporte ce qu'il dit. Je suis le scribe, en fait, de Élie.
Vous faites le scribe d'Élie, qui est effectivement un personnage un peu en fin de course, à qui il va arriver cette rencontre. Mais on peut imaginer que dans la carrière professionnelle d'Élie, des rencontres, il en a déjà fait beaucoup. Là, cette rencontre, c'est un petit garçon. Et c'est un petit garçon, il a l'habitude de rencontrer aussi des enfants. Parce que dans un centre d'ethnopsychiatrie, on rencontre tous les âges.
Des familles.
Et puis on rencontre aussi dans ce type de centre toutes les communautés. Or, ce petit garçon, Youri, dont je vais vous demander de présenter, il est d'un certain lieu d'Europe. Il représente la communauté tzigane de Roumanie.
Alors, non, il représente rien, il représente rien ni personne, c'est un hasard. Mais c'est vrai que cet enfant que Élie va rencontrer, c'est un petit Rome qui vient de Roumanie, un Tzigane de Roumanie, en fait. Alors, comment dire, Élie, c'est un spécialiste en ethnopsie, mais il est spécial aussi. C'est un psy pas comme les autres, si vous voulez. Non, mais les ethnopsies, déjà, c'est des gens pas comme les autres, mais celui-là, il est particulièrement pas comme les autres. D'abord, il ne fait pas payer les patients, parce qu'il considère que soigner quelqu'un, guérir quelqu'un, c'est un don, et donc ça ne se monnaie pas. C'est un don, et donc il faut rendre le don. Donc il considère que si vraiment il guérit des gens, donc il peut pas prendre d'argent. Donc il ne fait pas payer. Et par ailleurs, il y a quelque chose en lui, sans doute, qui attire des gens qui sont, enfin, des malades, bien entendu, mais des malades qui sont pas comme les autres malades, des malades à qui il arrive des choses qui n'arrivent pas aux autres. Par exemple, des gens qui ont des visions, des gens qui entendent des voix, des gens qui voient des choses qui vont arriver le lendemain, qui prévoient. Bon, et ça, c'est un peu, il sait pas pourquoi, des gens comme ça, il en a toujours reçu. Et là, voilà qu'il reçoit un enfant, qui est un enfant, bien sûr, qu'on a ramassé. Vous savez, les flics ramassent parfois des enfants sur les trottoirs, des Roms, justement. Il est avec sa mère, il fait la manche dans un quartier riche de Paris. Et il est ramassé, lui et sa mère, et on le conduit en psy parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, qu'ils ont un problème, quoi. Et donc c'est là, ils arrivent au centre d'ethnopsychiatrie et Ellie reçoit donc cet enfant, rencontre cet enfant à ce moment-là. Donc c'est pas qu'il représente la communauté rome, c'est que c'est un rome, quoi. C'est tout, c'est comme ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, moi je suis le scribe de ce qui arrive à Ellie. Alors, il arrive ce qui lui arrive, hein. Moi, Je ne commande pas. C'est lui qui commande. C'est les personnages qui commandent, vous savez. C'est pas nous qui commandons aux personnages, c'est les personnages qui commandent à l'écrivain. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Ça s'est présenté comme ça. Il n'est pas tout seulement Tzigane, d'ailleurs, hein, puisqu'il est mixte. C'est un métis. Hein. Son père, c'est un juif de Cluj, en Roumanie, et qui a eu cet enfant avec une petite Tzigane de Cluj aussi. Hein, mais ce juif de Cluj, on ne sait pas d'où il sort, parce qu'il n'y a plus de juifs à Cluj. Ils sont tous partis. Donc comment un enfant juif était encore dans la ville de Cluj, on se demande d'où il vient, quoi. Et donc c'est ce couple-là, qui sont tous les deux des enfants, qui ont eu ce petit garçon qui s'appelle Yuri. Voilà. C'est celui-là que rencontre Elie.
Parlons un petit peu de... Parlons du tout. Parlons de la conception de ce petit garçon entre cette jeune fille, encore enfant, et puis ce garçon d'origine juive, enfant également. Ils ont une très très belle histoire d'amour, vous en parlez dans votre roman. Très très belle histoire d'amour, il y a la figure paternelle de la jeune fille qui est un roi de la casse, qui revend des voitures à prix d'or et qu'on imagine milliardaire, qui est une sorte de d'ogre, un colosse qui est magnifique et qui a une belle figure paternelle. Va arriver la disparition déjà de la maman, puis du papa de la maman, et ne reste plus que cette jeune fille enceinte avec son petit Yuri, enfin, et puis après qui donne naissance à son petit Yuri dans une forêt, et après ils vont fuir en France.
Alors bah oui, c'est ça, c'est bon, puisqu'on raconte l'histoire, l'enfant est né dans une forêt, et cette forêt elle existe, hein, Oyabachu, c'est la forêt d'Oyabachu, c'est une forêt un peu mythique, hein, mais elle existe, hein. On raconte des choses terribles, hein, sur cette forêt. On raconte que quand on rentre là-dedans, on n'est pas sûr d'en sortir. Hein. On raconte que les arbres sont vivants, animés, comme ça, ils ont des bras, ils peuvent vous attraper et vous emprisonner. Hein. Et puis on raconte aussi qu'il y a des têtes accrochées aux arbres, comme des fruits, quoi. Et c'est des têtes de gens qui n'ont pas été enterrés ou qui ont eu un destin bizarre, quoi. On dit qu'il y a des morts vivants, quoi, dans cette forêt. Et c'est là qu'elle va accoucher, elle. Elle n'a pas peur dans cette forêt. La mère de Yuri, qui s'appelle Moira, elle n'a pas peur dans cette forêt. Elle va accoucher là, dans cette forêt. Et elle accouche d'une façon qui est d'ailleurs la façon traditionnelle, dit-on, des Tziganes. C'est-à-dire, elle choisit deux arbres creux. Elle court de l'un à l'autre jusqu'à ce que l'enfant vienne, quoi. Et à ce moment-là, elle s'accroupit entre les deux arbres. Et l'enfant arrive. Mais cet enfant est bizarre dès le début, hein. Dès sa conception, même avant sa naissance. Il parle à sa mère de l'intérieur de son ventre, quoi. Donc il arrive et puis il se moque d'elle sitôt qu'il naît, quoi. On apprend tout ça au centre d'ethnopsychiatrie, où Elie pose des questions par l'intermédiaire d'une interprète, comme on fait en ethnopsychiatrie à la maman, à Moira. Et il lui demande, mais comment t'as accouché toute seule? Et elle ne sait pas répondre, elle ne sait pas. Elle dit, mais qui a coupé le cordon? Elle ne sait pas répondre, elle ne sait pas. En tout cas, elle sait que c'est là qu'elle a accouché, c'est là qu'il est sorti. Tout le monde est convaincu par ce qu'elle dit. Enfin, on n'en sait rien après tout. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle nous raconte.
Elle le raconte dans une séance d'ethnopsychiatrie. Pouvez-vous nous parler un peu de cette séance, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui sont présentes?
Ah, ça c'est très réaliste, hein, la séance d'ethnopsychiatrie. Il y en a plusieurs dans ce livre, des séances d'ethnopsychiatrie dans ce roman. C'est très réaliste, c'est-à-dire dans une séance d'ethnopsychiatrie, nous avons des cliniciens, bien sûr, des psys, quoi, des psychiatres, des psychologues, et puis nous avons forcément au moins une personne qui parle la langue du patient. On appelle ça un médiateur, c'est un traducteur, quoi. Donc il y a là une psychologue roumaine qui s'appelle Elena, qui traduit et qui d'ailleurs est Et un peu sous le charme de Moïra, la maman de Yuri, et elle se fait prendre, elle se fait fasciner, elle se laisse fasciner par Moïra et par le petit Yuri d'ailleurs. Et puis il y a, enfin, tous ces gens-là participent à la consultation, mais cette consultation où normalement vous avez quelqu'un qui est un expert, le psy, quoi, qui écoute quelqu'un qui est un patient, et là tout d'un coup les choses s'inversent, quoi, parce que tout le monde est là, fasciné, ils veulent apprendre davantage, et ils sont collés à la parole de Moïra, et ils sont captivés, et en fait ils savent pas quoi penser, sinon qu'ils disent « Oh, c'est une belle histoire, mais est-ce que c'est vrai ?»
Parce que Ellie, le personnage principal, qui est ethnopsychiatre, lui, il est sceptique. Dès les premières pages, on sait que c'est un sceptique.
Oui, c'est un rationaliste. C'est un rationaliste, c'est-à-dire, on aurait pu penser qu'il est passionné par les choses ésotériques, tout ça. Non, mais il n'aime pas ça, en fait. Hein. Mais il est tout le temps sollicité par des choses pareilles, mais lui, c'est pas un adepte, quoi. Donc il est étonné par ce qu'on raconte, mais il reste en retrait, il est sceptique, et ça va durer longtemps, parce que le petit Yuri, très vite on va se rendre compte qu'il est capable de faire des choses hors du commun, quoi. Il fait, au début c'est des petites choses, mais qui sont pas normales, quoi. Par exemple, il regarde le collier d'une directrice de foyer, et il regarde le collier, puis les pierres se mettent à éclater, les pierres du collier se mettent à éclater, rien que sous la force du regard du petit gamin, quoi. Alors, on est étonné, on dit c'est un hasard, c'est pas possible, quoi. Quel rapport entre l'un et l'autre? Ou alors, il regarde comme ça, et il est en colère contre une femme qui a une caravane, là, et la caravane se fend par le milieu, comme ça, elle se casse en deux, la caravane. On dit aussi, là, il n'y a pas de rapport, quoi. C'est pas possible. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il a peut-être des pouvoirs, ce gamin. Mais s'il a des pouvoirs, d'où cela provient-il? Qui est ce gamin? C'est quand même étrange, quoi. D'où il sort, ce gamin? Et là, la question qui, au début, était impossible à Ellie, au fur et à mesure, elle devient une question lancinante. Et d'où il sort? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il vient faire chez... Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre monde? C'est un peu ça, la question de cet enfant.
Parce que cet usage du roman et donc de la fiction permet de rendre concret l'action de Yuri. C'est-à-dire que Yuri ni la maman ni Yuri ne racontent pour rien. On imagine que dans une séance d'ethnopsychiatrie, le patient, la personne qui va parler de ses troubles, va convoquer des invisibles, va convoquer des puissances étranges, mais qu'il ne se passe rien en action, comme faire exploser un collier ou comme casser une caravane en deux. La fiction va permettre de rendre cela réaliste, c'est-à-dire de le faire agir dans le réel, dans le concret.
Alors, je sais pas. Moi, je sais pas ce que quand vous dites la fiction, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Moi, je vous dis, j'écris sous la dictée de personnages. Hein. Donc oui, c'est une fiction au sens où vous l'entendez, mais je fais pas de différence, moi, entre la fiction et ce qui n'est pas de la fiction, quoi. C'est-à-dire puisque c'est sous la dictée de personnages que j'écris. Alors, en effet, dans une consultation d'ethnopsychiatrie, c'est beaucoup de la parole. Il y a des actes aussi, hein, dans une consultation d'ethnopsychiatrie. Il y a des actes, il y a des mouvements, il y a des colères, il y a des violences qui sont évoquées, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer durant une consultation. Mais, en effet, je n'ai jamais vu se briser des colliers ou se casser une caravane dans une consultation, vous avez raison. Mais peut-être parce que j'ai pas assez fait de consultations. Je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qui serait, qu'est-ce qui opposerait ces événements à une consultation? Je ne les ai jamais vus, hein. Bon, voilà, mais c'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûr que votre distinction entre fiction et non-fiction, moi, enfin, ce ne sont pas mes catégories.
C'est justement là où ce que vous faites est absolument intriguant et absolument à vif et passionnant. Parce qu'effectivement, ces catégories de fiction ou non-fiction, je ne sais pas très bien non plus comment les délimiter. C'est très très flou en fait comme limite. Et vous avez bien raison là-dessus. Néanmoins, quand on lit un roman, on se dit ce livre-là est à mettre du domaine de la fiction, de l'invention fictionnelle. Et ce livre que vous avez écrit, L'Évangile selon Youri, il est différent de votre précédent livre qui s'appelle Les Amérantes, par
Ah, c'est
exemple.
pas du tout pareil.
Voilà. Dans l'un, vous rapportez une expérience théorique et dans L'Évangile selon Youri, c'est une expérience fictionnelle. Et c'est la manière dont vous allez procéder pour votre expérience fictionnelle qui, là, vous est presque unique. Vous dites, vous affirmez que vous écrivez sous la dictée du personnage. Déjà, ça c'est un premier point, et que c'est lui qui vous glisse à votre oreille son histoire. Rares sont les écrivains qui vont avouer cela.
Alors, mais c'est la vérité, je vois pas comment on peut écrire autrement. Enfin bon, chacun écrit comme il peut, hein, je veux dire. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas écrire autrement que cela. Mais il y a une sorte de. Il y a une malice dans ce livre. Parce que je parle à la première personne dans ce livre, comme si j'étais Élie. Et donc, on pense, puisque ce Élie me ressemble un peu, puisqu'il est ethnopsie comme moi, il n'est pas très jeune comme moi, donc il me ressemble un peu. Donc, au départ, c'est ça la malice. Au départ, le lecteur peut penser qu'il s'agit de moi. Or, il ne s'agit pas de moi. Et donc, on s'en rend compte au fur et à mesure, et on s'en rend compte à ces moments, à ces distorsions que vous évoquez, ces distorsions où vous voyez de la fiction. Moi, je dis non, c'est un peu de malice. Un peu de malice d'écriture, quoi, pour rendre les choses plus poétiques, je dirais. Voilà, c'est de la malice, en fait. Un peu, pas beaucoup. C'est pas de la perversité, c'est de la malice.
Alors vous serez un inventeur de malice alors. Et c'est là où, à nouveau, il se passe quelque chose dans votre usage de la fiction. Et c'est ça qui, pour moi, est peut-être le plus important d'avoir une personne qui a voué sa vie à l'ethnopsychiatrie, donc à une discipline des sciences humaines, un travail éminemment sérieux. Complètement reconnu dans ce que vous faites, novateur, qui fait œuvre aussi de fiction. C'est-à-dire qu'on est très très loin d'être votre premier livre de fiction. Vous avez écrit aussi des romans policiers, Toby Nathan. Donc vous êtes auteur de romans, et donc vous avez on va dire, dans les librairies, où il y a deux rayons où apparaissent vos livres, il y a le rayon sciences humaines et il y a le roman, il y a le rayon roman en fait.
Oui, c'est sûr.
Et c'est là où ce passage de l'un à l'autre fabrique quelque chose. Je vais prendre un exemple, par exemple. Je vais prendre un exemple, pas par exemple. Je vais prendre un exemple dans Les âmes errantes, qui est votre dernier livre théorique, qui est sous-titré 3 ans à l'écoute des jeunes en voie de radicalisation. Ça, c'était donc un de vos travaux ces dernières années. Or, dans L'Évangile selon Youri, on va croiser un jeune radicalisé, on va croiser Reda, et Reda va avoir un rôle très important dans ce roman, parce qu'il va se passer quelque chose. Alors, c'est du roman, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va réussir à attraper le président de la République française et à le kidnapper et à le séquestrer parce qu'il s'est radicalisé. Et cette figure de Reda, moi je l'ai lue, bien entendu, avec en arrière-fond votre travail sur les âmes errantes.
Alors, bon, je dirais, vous avez raison de souligner que c'est ancien, que que ce passage de l'un à l'autre est ancien pour moi. Le premier roman que j'ai écrit, c'est Sarah Cabot. J'ai écrit ça en 1993. C'est un polar, hein, où tous les... La plupart des... Pas tous, mais la plupart des personnages étaient des migrants en difficulté et souvent aussi en consultation, en fait, en traitement avec un psychiatre. C'était cette opposition entre la psychiatrie qui pense savoir ce qui se passe dans la pensée de l'autre et ces patients qui sont tellement différents, tellement distants, cette opposition qui avait été le moteur, en fait, de Sarah Cabot. Mais quand j'ai écrit Sarah Cabot, j'avais exactement la même position que celle que vous évoquez dans cette différence entre les amérantes et Yuri. C'est-à-dire que j'avais écrit un livre, plusieurs textes théoriques sur les patients en question, et j'étais pas satisfait, parce que je les avais pas décrits de l'intérieur. Je n'avais pas été capable de les mettre en scène, de les précéder. Et comprendre quelqu'un, c'est le précéder, c'est-à-dire l'écrire de l'intérieur, prédire, c'est plus que prédire, c'est le mettre en mouvement avant que lui-même ne sache qu'il est en mouvement. Je ne savais pas, je pense dans un livre théorique, je ne sais pas faire ça. Et donc à un moment donné, je dis, mais si, et je suis possédé par eux, je suis capable de les mettre en mouvement. Et en général, un livre théorique succède à un roman où on ne retrouve pas exactement les mêmes personnages, mais quelque chose qui y ressemble, parce que j'ai une sorte de besoin, parce que je suis possédé par ces personnes. Et donc il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est le roman qui a cette fonction. Je ne sais pas si c'est la question que vous posez. Donc Reda, c'est un personnage totalement inventé, mais totalement plausible. Il est totalement inventé, hein. Il n'existe absolument pas dans la réalité. J'ai vu des jeunes radicalisés, j'en ai vu une soixantaine en fait, hein. C'est de là que j'ai tiré le matériau pour écrire Les Amérantes. Mais Reda, il est un condensé de tout cela en fait, hein. Peut-être, mais c'est même pas un condensé, c'est ce que j'ai compris de tout cela qui a donné Reda. Et ce Reda-là, il m'a possédé, donc j'étais obligé de le mettre en mouvement, quoi. C'est pour ça que j'en ai fait un roman. Donc vous avez raison de souligner qu'il y a une relation, mais cette relation, elle n'est pas de cause à effet, elle n'est pas linéaire. C'est une relation de trop-plein, c'est-à-dire j'ai été trop plein de ces personnes dont je me suis occupé, ça débordait, quoi. J'étais possédé et il fallait que je leur donne un mouvement, une vie en action. Et c'est la fonction de ces romans. Action, ça se dit, en grec, ça se dit poésie. Et donc c'était obligatoirement un texte poétique qui devait donner la vie à ces personnes. C'est pas clair ce que je vous dis.
C'est ça que je voulais que vous dites. Exactement ça. C'est-à-dire à quel moment le théoricien, le grand théoricien et le grand praticien que vous êtes a besoin de l'usage du roman, de la littérature, a besoin de l'usage de la fiction pour exprimer autrement ce qui se passe. Et c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire comment un théoricien, un praticien a quand même besoin de la fonction de la fiction afin de dire autrement les choses. Dans une précédente discussion que nous avions eue ensemble, Toby Nathan, vous parliez à quel point d'écrire une étude de cas, ce qui en psychologie, bien entendu, on fait ça, c'est comment écrire un cas, comment le décrire, était à ce point difficile et vous avez vraiment travaillé particulièrement là-dessus parce que vous aviez été choqué par la pratique de Freud, c'est ce que vous m'aviez dit. Et la fiction va vous permettre peut-être de trouver la manière, parce que c'est fictionnel, d'écrire ces études de cas.
C'est ça, c'est absolument vrai. Vous vous souvenez, hein, c'est bien, vous avez de la mémoire. Hein. Moi, j'avais oublié notre conversation. Je sais que nous avons discuté de ça, mais j'avais oublié le contenu. Mais c'est bien. Et je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, le Freud est un scandale. Les textes cliniques de Freud sont un scandale. C'est-à-dire, il fait comme s'il relatait le récit, enfin l'histoire de quelqu'un. En fait, il ne délivre que sa théorie. La personne en question n'a aucune place là-dedans. Elle est que l'interprétation qu'en fait Freud. C'est pour ça que je dis que c'est un scandale. Et d'ailleurs, la plupart des... Enfin, pas la plus, j'en sais rien, mais les patients dont parle Freud dans, par exemple, son livre 5 psychanalyses, se sont tous révoltés contre la parole de Freud sur eux. Bon, alors, ça veut rien dire, hein, parce que ça veut dire qu'il leur a pas demandé leur avis, bien entendu. Puis, ça veut dire aussi que il n'a pas été possédé par eux. Il a voulu les objectiver, les rendre objectifs. Moi, c'est exactement le contraire que je fais, hein. Et c'est-à-dire que ce que je souhaite, c'est au contraire les absorber en moi, les incorporer, en être totalement imprégné jusqu'à être possédé par eux. Mais possédé est un bon mot, quoi. C'est eux qui ont pris temporairement possession de ma pensée, de mon âme, de mes préoccupations. Vous savez, pendant qu'on écrit un roman, on est totalement obsédé par ce qu'on écrit, on est complètement là-dedans. Donc les personnages ont véritablement pris possession de vous. Et après, une fois qu'ils ont pris possession de vous, il va sortir quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est ça le roman. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut écrire un cas. Parce que on a été pénétré, totalement imprégné, imbibé de ce cas. Et ensuite, on peut en dire quelque chose, mais on en dit quelque chose à la première personne. On ne peut parler d'un cas qu'à la première personne, et surtout pas à la troisième personne, comme le font habituellement mes confrères, et je trouve qu'ils ont tort quand ils font ça. Et dont le premier, évidemment, Freud. C'est pour ça que nous avions parlé de Freud. Voilà. Mais c'est comme ça que j'ai travaillé. Donc c'est vrai qu'il y a une relation, mais il n'y a pas que Reda. Et Reda est en relation évidemment avec les âmes errantes, puisque c'est en quelque sorte la substance même des âmes errantes. Il n'est nulle part dans les âmes errantes, Reda. Le cas, vous pouvez le chercher, il n'y est pas dans les âmes errantes. C'est un cas imaginaire. Mais il est tous les cas des âmes errantes. Je dirais que le livre là, sur Youri, l'évangile selon Youri, il y a trois patients en fait, hein. C'est l'histoire de trois patients. L'un c'est Youri, un patient qui se révèle être plus puissant, pourtant enfant, mais plus puissant que tous les adultes et tous les docteurs. Donc ça c'est le premier patient. Il y a un deuxième patient qui semble être complètement demeuré, capturé, radicalisé, pris par son idéologie. Et puis, à un moment, on se rend compte qu'en fait, il est au service de quelque chose de plus important que tout ça, quoi. Et puis, il y a une troisième patiente, hein, qui est Avril, donc vous allez peut-être parler, et qui est aussi, au début, elle apparaît comme une patiente qui est en demande de soins. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que elle est une vestale, en fait. Une vestale d'une divinité en train d'apparaître, quoi, en train de naître. C'est là qu'on se rend compte que la psy, il faut se méfier, quoi. C'est-à-dire, on croit qu'on a des patients, des gens qui ont besoin, et en fait, ce sont des maîtres, hein. C'est là où ceux qu'on croyait être soumis sont ceux qui soumettent, en fait, hein. Et ça, c'est ce qui m'intéressait dans le roman.
Je veux bien que nous parlions de ce beau personnage féminin d'Avril et de cette première rencontre. Et par cette première rencontre entre Ellie et Avril, ça me permet de parler du personnage de Samuel. Parce que Samuel est le fil conducteur Alors Samuel est celui qui habille Élie. Il tient une friperie, mais une super méga belle friperie qui existe puisque j'ai vérifié sur Google. Et
Mais elle existe.
ça donne envie d'aller à cette friperie et de rencontrer ce Samuel qui est un personnage vraiment fort dans votre roman, vraiment. Parce que Élie, il va très très souvent dans cette friperie rencontrer Samuel, et la rencontre avec Avril a lieu dans cette friperie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette merveilleuse friperie, du personnage de Samuel, et bien entendu de cette rencontre un peu curieuse avec Avril, qui cherchait vraiment à rencontrer Élie de toutes ses forces?
Alors, bon, la friperie, c'est comment je dirais que c'est la partie la plus réaliste du livre. De toute façon, c'est un livre réaliste, hein. Moi, je dirais, c'est un livre qui veut transmettre le réalisme de la magie, en fait. Ça a l'air idiot, dit comme ça, ou absurde, je sais pas. Le réalisme de la magie, c'est-à-dire que la magie, c'est pas du surnaturel, mais ça fait partie du réel, en fait, hein. C'est un peu ça l'idée, hein, de ce livre, l'idée philosophique de ce livre, c'est un peu ça. Et cet endroit, il faut un endroit, hein, pour que ça se passe. Et cet endroit, c'est cette friperie. Alors, je vais vous dire, elle existe et j'y vais. Elle se trouve boulevard Arago. Il m'arrive très souvent d'y aller. Donc, c'est une vraie friperie. C'est tellement réaliste ce livre que si vous y allez, vous la reconnaîtrez, hein. Et à l'entrée de cette friperie, il y a une indication, comme il y a parfois dans Paris, dans certains endroits, où il est marqué, là, à cet endroit, il y avait une église. Et c'est la ville de Paris qui a mis ce poteau. Et c'est marqué, à cet endroit-là, il y avait une église, et cette église, elle a été bâtie au Xe siècle par Robert le Pieux, etc. Bon, écoutez, je vois ça, moi, et je dis, il y a la friperie, dessous, il y a l'église, j'ai tout l'espace de mon roman. Donc, à la surface, vous avez un endroit qui est où on habille les gens, quoi. Et qui est sur l'apparence, et sous l'apparence, ben vous avez une église, c'est-à-dire la puissance des choses invisibles qui sont là, et j'ai imaginé que sous l'église, il y avait une source. Parce que souvent, les églises sont bâties sur des sources, hein, vous savez ça? Ben si, parce que, vous savez pourquoi, hein, ils bâtissaient les églises sur les sources? Parce que la France est le pays des sources. Il y a des milliers, des centaines de milliers de sources en France. C'est le pays de l'eau, la France, en fait, hein. Et c'est le secret, d'ailleurs, de la France, hein. C'est que c'est le pays des sources, en fait. Et donc, on adore les sources en France depuis l'Antiquité, depuis probablement avant. On pense qu'il y a des forces, là, qui surgissent de la terre et que ces forces sont des forces sacrées, en fait. Et donc, vous avez pu convaincre les habitants de la France, qui n'étaient peut-être pas des Français à ce moment-là, qui étaient les premiers habitants de la France, vous pouvez les convaincre de ce que vous voulez, mais pas d'abandonner les sources. Et donc les prêtres de Guerlas, puisqu'ils n'arrivaient pas à décourager les personnes de s'en aller faire des rituels aux sources, et ils ont bâti l'église sur les sources. Comme ça, ils viennent à l'église. Les prêtres pensent que c'est pour Jésus qu'ils viennent à l'église, et en fait, les premiers chrétiens en France venaient là pour les sources. Et c'est là que vous trouvez des bénitiers qui sont parfois alimentés aux eaux des sources, en fait. Donc, cet endroit-là que je vous dis, si vous y allez, boulevard Arago, vous verrez qu'il y a la boutique, qui est la friperie, et devant, il y a une pancarte qui dit, là, en dessous de à cet endroit-là, il y a une église, et cette église, elle est en dessous, elle est disparue. Alors moi, j'imaginais que, comme il y a dans les églises, il y avait un cimetière aussi, et qu'il devait y avoir des tas de choses là en dessous, j'ai imaginé, mais je suis sûr que c'est vrai, hein, qu'il y a tout ça dans cet endroit. Donc c'est un endroit qui a une force en soi. Alors, la friperie, moi, ça me fascine. Parce qu'en fait, ils vendent des habits qui ont servis. C'est des beaux habits, hein, je veux dire. C'est-à-dire, c'est des habits de qualité qu'il a choisi parce que c'est un homme de goût, hein, qui tient cette friperie, que j'ai appelé Samuel dans mon livre. Il choisit des habits de qualité, mais ces habits ont habillé des gens avant. Et moi, je suis fasciné par ça, de prendre les habits de quelqu'un et de s'en pénétrer, c'est-à-dire, au fond, encore une fois, se laisser posséder par une personne qu'on ne connaît pas, mais le laisser prendre possession de vous, de votre corps, quoi. Et ça me plaisait beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était l'endroit parfait pour que se déroule ce que je voulais mettre en scène. Alors c'est là, dans cette friperie, c'est dans cette friperie que se matérialisera la première église de Youri, justement. Parce que ce Youri va faire des miracles, évidemment. Il va les faire où? Dans la friperie, justement. Parce que ce lieu est chargé, est fort et puissant. C'est pas clair ce que je vous dis. Si?
Et alors, parlez-nous de cette rencontre entre Élie et Avril, entre l'ethnopsychiatre et cette figure féminine qui vient apparaître là, un peu, qui a beaucoup de volonté, cette femme, qui est un peu casse-pied quand même.
Alors, Avril est une femme qui a eu un message, et elle veut le transmettre, ce message, à Élie. Elle ne sait pas pourquoi, mais ce message, il lui est parvenu en rêve, hein. Et donc, elle a vu ça. Et moi, j'ai souvent vu des gens comme ça, hein. Il faut les écouter, hein. On a envie de dire, mais il délire. Personne ne délire, hein. Il y a toujours des choses importantes qui sont véhiculées par ce type de parole. Et donc, elle vient avec ce message. Elle veut absolument que Élie l'écoute. Et Élie, il n'a pas envie, quoi. C'est, je veux dire, d'abord, c'est pas prévu. Et puis là, il ne court pas après les patients. Il est à la retraite. Il n'a pas envie de travailler. Enfin, bon. Et donc, elle le poursuit, en fait. Elle sait où il habite. Elle sait où il va acheter ses vêtements, et elle l'attend dans la boutique. Là. C'est là qu'elle l'attrape, dans la boutique, et elle lui dit, écoute, elle le saisit, en fait. Je ne vous dis pas comment elle le saisit, mais vous le savez. Elle le saisit en lui faisant une divination, en fait, hein, sur lui. Et donc là, il est saisi, et il lui donne un rendez-vous à dans son antre, qui est aussi son cabinet, mais c'est là où il vit, c'est un petit deux pièces, il a un petit deux pièces et le divan où il met ses patients le soir, c'est là où il dort, en fait, hein. Donc c'est un cagibi, quoi, en fait. Mais c'est aussi un cabinet, si vous voulez. Et là, c'est là qu'il la reçoit. Et donc elle va lui parler. Elle va le tenir en haleine en lui racontant sa propre vie, alors qu'il n'a pas envie d'écouter ça. Il veut connaître le message qu'elle transmet. Et jusqu'à ce que finalement elle lui transmet le message et qu'il comprend qu'il a une fonction dans tous ces événements qui sont en train d'arriver. Parce que c'est une série d'événements qui sont en train d'arriver, hein. Il y a le petit Youri qui arrive à Paris, il y a Reda qui fait des choses invraisemblables, qui capture le président de la République, qui kidnappe le président de la République, etc. Il y a des événements comme ça, et puis il y a des événements politiques aussi qui sont en train de se passer dans la ville. Tous ces événements, il y a une conjonction d'événements, on ne sait pas, parce qu'il va se passer quelque chose. Et finalement, c'est comme Avril qui délivre la vérité de ces événements, en fait. Mais je ne vais pas vous décrire, je ne vais pas vous dire toute la vérité du roman. Il faut quand même le lire.
Il y a un autre lieu. Vous avez décrit brièvement l'appartement d'Élie, un appartement encombré d'objets qui ont des fonctions, d'objets, on pourrait presque appeler ça des objets fictionnels, des objets transitionnels, des objets qui ont des histoires avec eux, pas des simples objets de décoration ni d'objets d'apparat. Et puis, il y a un troisième lieu au tout début de... Enfin, qui court aussi tout le long du roman, c'est donc le centre d'ethnopsychiatrie. Ouais.
et de ce centre d'ethnopsychiatrie, il y a quelque chose qui peut intriguer, qui met vraiment la puce à l'oreille. C'est qu'il y a une statue de Jeanne d'Arc, et il y a ce petit passage sur Jeanne d'Arc et Gilles de Rais. Je vais vous le lire un petit peu. « Fou, Gilles et Jeanne l'étaient peut-être tous deux, inspirés en tout cas et humains. C'est certain par leur capacité à s'abandonner à la puissance des invisibles. J'ose à peine imaginer ce qui serait advenu de leur vie s'ils avaient consulté un psychiatre. Ils auraient traîné comme des loques, le corps alourdi de neuroleptiques, les yeux hagards mendiant des cigarettes en place publique. Ils n'ont pas été soignés. L'une a sauvé le royaume, l'autre y a installé le mal, Gilles et Jeanne. Elle l'aimait d'un amour qui l'a purifié, il l'aimait plus encore, rendu fou de ne pouvoir l'approcher. Je reste persuadé, c'est toujours Élie qui parle, je reste persuadé que Jeanne, juchée sur son cheval, protège le centre d'ethnopsychiatrie. L'idée de les honorer me traverse souvent l'esprit, mais j'ai appris qu'il est plus sage d'éviter certains sujets. » Mais ce que vous dites de Gilles de Rais, figure absolument terrible, et de Jeanne la Pucelle, c'est merveilleux. Effectivement, ce sont des personnages que vous auriez très bien pu, que Élie aurait très bien pu rencontrer, que vous-même aurez très bien pu rencontrer en centre d'ethnopsychiatrie.
Ouais, et c'est comment ? C'est la France. C'est un livre aussi. Vous avez souligné le point où, en fait, c'est une déclaration d'amour à la France, ce livre. C'est-à-dire que c'est la puissance de la France, c'est pas forcément là où on l'a décrit. Elle est aussi dans ses invisibles, quoi. C'est ça que j'essaye de montrer. Et il y a deux personnages qui sont contemporains d'ailleurs, puisqu'ils sont, ils se sont connus, hein. Jeanne d'Arc et Gilles de Rais se sont connus. Et c'est la naissance du royaume, en fait, hein. C'est la naissance de la France politique, si vous voulez. Et Jeanne, elle est possédée par... Alors, elle dit qu'elle entend des voix de Dieu. Je ne sais pas, mais elle est possédée, en tout cas. Elle est prise par des choses invisibles, elle l'avoue. Et au fond, je ne sais pas, on peut dire que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas la question. C'est que, en tout cas, ce sont ces voix qui ont dicté son comportement et que ce comportement a eu une influence politique. Elle a sauvé votre ville, Orléans, en écoutant ses voix, en fait, hein. Donc, ça a une importance politique. Et quant à Gilles de Rais, je regardais de très près son histoire à Gilles de Rais, c'est qu'il est, à un moment donné, il a décidé, en fait, de se laisser posséder par le diable, hein. C'est lui-même qui a dit ça. Donc, l'un comme l'autre a accepté d'être possédé par des invisibles. Et c'est eux qui ont constitué le royaume, en fait. La partie positive et la partie négative de ce royaume. Moi, ça me fascine, cette affaire. Je trouve qu'on a... Il y a un bouquin, hein, dessus, hein, qui s'appelle Jeanne et Gilles, ou Gilles et Jeanne, je ne sais pas, de Michel Tournier, qui... Bon, c'est bien écrit, comme souvent, Michel Tournier. Mais je veux dire, il ne va pas plus loin dans l'analyse. Il dit simplement... C'est bizarre, comment ça se fait que ces deux-là se sont rencontrés, se sont appréciés, en fait. Comment ça se fait qu'ils sont tellement à l'opposé. Et ça l'a intrigué, hein, Michel Tournier. Et pas le premier, hein, mais en fait, il y en a plusieurs textes là-dessus. Moi, ça me fascine, cette affaire, et je pense qu'il y a une raison plus profonde. Et au fond, quand je disais ça, je disais, c'est une déclaration d'amour à ce pays, la France, quoi, qui a une vraie force, malgré tout ce qu'on raconte. C'est pas de la politique seulement, la France. C'est aussi une force invisible. Je vous parlais des sources tout à l'heure. Ce qui constitue son âme, en quelque sorte. Et je pense que c'est dans l'association de Gilles et Jeanne qu'il y a l'âme de la France.
Alors même qu'on considère les Français comme les plus grands rationalistes du monde.
Ah bah oui, bah bien sûr. Et, non, mais bien sûr, et ce sont les plus grands rationalistes du monde. Je veux dire, c'est rationaliste au sens où c'est là où il y a, peut-être pas le plus, mais un des pays où il y a le plus de gens qui se déclarent sans Dieu. Se déclarent sans Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein, mais enfin, quand on leur dit « Est-ce que vous êtes croyant, etc. Vous croyez en Dieu ?» Ils disent non. Le pays où il y en a le plus au monde, c'est la Chine, hein, vous savez. Mais la Chine, on ne peut pas les croire, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire. Donc, c'est un autre problème. Après, je crois qu'il y a la Tchécoslovaquie, je crois. Et le troisième, c'est la France. Hein. Enfin, je veux dire, ça fait partie du peloton de tête. Là où il y a le plus de gens qui disent qu'ils n'ont pas de Dieu. Mais moi, j'y crois pas trop à ça. Parce que c'est une sorte de force différente, quoi, qu'il y a dans la France. Et je vais vous dire une anecdote. Je me souviens, j'étais avec un ami dans une église à Cotonou, au Bénin, et on faisait un travail de recherche, là. Moi, je posais des questions sur la religion des gens, peut-être quelle religion, peut-être quelle ethnie, etc. Et puis, les personnes m'ont retourné la question. Et toi, bon, j'ai répondu. Puis, ils demandent à mon ami. Et toi, t'es de quelle religion? Et mon ami répond, j'en ai pas. Et alors là, il répond, ils lui disent, ah, t'es français. C'était très drôle. C'est-à-dire que dire ça, le clamer, c'est en fait se décrire aussi bien que si on disait j'ai tel Dieu, quoi. Donc il y a quelque chose qui appartient à la France et qui est pas le fait qu'ils n'ont pas de Dieu, le fait qu'ils ont une façon de ne pas avoir de Dieu qui est la divinité française, en fait. C'est ça que je veux dire. Et ça m'a plu d'aller chercher ce truc-là. Et je pense que c'est aussi un livre sur une déclaration d'amour au génie français. Ça me plaît, ça m'intéresse.
En faisant cet exercice de fiction, vous vous faites porte-parole d'Eli, mais j'imagine aussi que vous apprenez des choses d'Eli, que vous apprenez des choses de ces personnages dont vous faites les porte-parole, en gros que vous apprenez de la littérature que vous écrivez.
Est-ce que j'apprends des choses de la littérature que j'écris? Beaucoup, oui, bien sûr. Non, mais on apprend. C'est pas qu'on apprend. C'est qu'on apprend qu'on a appris. C'est-à-dire que moi, j'ai appris de mes patients. J'ai essentiellement appris de mes patients. Donc, c'est beaucoup de travail, hein, de travailler avec des patients. C'est beaucoup d'investissement, je veux dire. Mais c'est beaucoup de bénéfices aussi. On apprend beaucoup, beaucoup. Mais on ne sait pas qu'on a appris. Il faut un moment s'arrêter et écrire. Écrire soit un cas clinique, soit un récit, soit etc. Et c'est là qu'on se rend compte combien on a appris. On apprend qu'on a appris, en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a appris. C'est au moment où on s'arrête et on essaye de mettre ça en forme et que là, on se rend compte qu'on a appris, en fait. Alors, oui, j'ai appris de mes patients. Et est-ce qu'on apprend de ces personnages de fiction? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est-à-dire que Eli, avant que j'écrive ce livre, je ne le connaissais pas. Maintenant, c'est un personnage qui m'est familier, malicieux. Son existence est malicieuse, comme je vous disais tout à l'heure. Parce que je pourrais me faire passer pour lui, ou il pourrait se faire passer pour moi. Mais on sait très bien qu'on n'est pas du tout les mêmes, quoi. Et qu'il a un côté moins analytique que moi, plus englué dans le monde, quoi, que moi j'ai pas. Donc, et ça m'intéresse de le voir bouger comme ça. Mais il n'est pas moi. Mais j'ai appris de lui ce que je pourrais être si je me laissais engluer dans le monde. Et bien sûr que j'apprends de lui aussi.
Et en ce cas, quelle différence entre les invisibles dont vous parlent vos patients en centre d'ethnopsychiatrie et le personnage fictionnel que vous allez inventer? Quelle différence va-t-il y avoir, ou il ne peut n'y avoir aucune différence? Ce sont des puissances.
Alors, oui, non, c'est-à-dire les invisibles dont me parlent mes patients sont des invisibles qui sont partagés C'est-à-dire, c'est les gens de leur monde les partagent. Et souvent, d'ailleurs, on va à la recherche du savoir commun sur ces invisibles. C'est-à-dire, bon, je sens que je dors pas la nuit, je fais toujours le même rêve, il y a des gens qui viennent me réveiller en pleine nuit, etc. Bon, qui sait, est-ce que ce serait pas un djinn, par exemple, une séquence possible? Est-ce que ce serait pas un djinn, par exemple? Alors à ce moment-là, on dit, oui, d'accord, mais lequel? À partir du moment où on commence à le nommer, ce djinn, alors il y a une connaissance partagée de ces invisibles-là. Et c'est de cette connaissance partagée qu'on parviendra à aider la personne. Parce qu'on sait ce djinn, et on l'a déjà vu, avec il est allé voir d'autres personnes, il les a rendus malades, ou il les a enrichis, ou il leur a fait je ne sais quoi. Et donc on a acquis une expérience sur lui, et on peut obtenir des effets sur ce djinn, et donc il y a une connaissance partagée. Donc ça, c'est les invisibles, c'est pas seulement la puissance, c'est aussi la recherche de la connaissance partagée. Alors que dans l'écriture, les personnages de fiction, la connaissance partagée précède l'existence du personnage. C'est-à-dire que je pars de choses qui existent, dont la théorie existe. Et puis après, c'est comme de la matière, comme de la boue, comme ça, de la glaise. Puis après, on pétrit tout ça. Et il y a de la vie qui apparaît. Et puis tout d'un coup, la vie, elle prend le pas sur le travail d'artisan. Et c'est la vie qui prend son envol, et à ce moment-là, il a pris son envol, il est indépendant. Donc la connaissance précède la vie, alors que l'autre, c'est la vie qui précède la connaissance. Mais oui, ils sont comparables.
Parce que dans les deux cas, il y a invention. Il y a invention, il y a de l'invention, c'est-à-dire qu'il y a de l'invention humaine. Vous avez beau dire, Toby Nathan, mais je vais faire mon rationaliste, que vous êtes porté par la voix de votre personnage et de vos autres personnages fictionnels dans votre roman, et que du coup c'est vous qui vous faites porteur de leur voix. Néanmoins, je ne peux que me dire intérieurement que c'est vous l'inventeur, c'est-à-dire que c'est vous n'en êtes pas que le porteur, vous en êtes aussi le concepteur, c'est-à-dire l'écrivain. Ça c'est ma version complètement rationnelle de l'écriture. Et contre ça, vous n'êtes pas d'accord?
Non, je ne suis pas d'accord parce que... Je suis pas d'accord sur un détail. Bien sûr que je comprends bien ce que vous dites et ça me paraît raisonnable ce que vous dites. Justement, c'est trop raisonnable. Ça me paraît trop raisonnable. Et les choses raisonnables, il faut s'en méfier parce que c'est forcément faux. Mais ça me paraît raisonnable. C'est pas, je ne le récuse pas a priori. Hein. Donc, mais je vais vous dire. Quand par exemple... rappelez-vous, il vous est arrivé de résoudre des problèmes de maths, par exemple?
Anciennement.
Hein? Quand vous étiez à l'école, au lycée, ou je sais pas. Quand on fait un problème de maths, hein, on pose tous les ingrédients. Ça, c'est de la raison. Il n'y a pas plus raisonnable que ça. Hein? C'est de la rationalité pure. On pose tous les éléments. On a des connaissances de problèmes qu'on a déjà résolus par le passé. La connaissance de théorèmes, etc., d'algèbre, par exemple, tout ça, vous n'avez pas résolu le problème pour autant. À un moment, il y a un déclic. C'est la création. C'est vous qui l'avez fait? Vous n'êtes pas sûr. Ça vient comme ça, ou ça peut ne pas venir. Ça vient, ou ça peut ne pas. Cette chose qui vient, ou qui peut ne pas, ce truc-là, on ne peut pas dire que c'est soi. Soit c'est tout ce qui a été... la précondition de ça qui a rendu cette chose-là possible, mais à un moment donné, cette étincelle, l'apparition de la vie, quoi, c'est plus soi, c'est quelque chose d'autre. C'est une félicité particulière, mais ça arrive ou ça n'arrive pas. Et cette chose-là, c'est là où je dis c'est le personnage qui a pris possession du jeu, quoi.
Merci beaucoup, Toby Nathan. Merci beaucoup.